France Inter, il est très exactement 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, deux pétroliers ont-ils été attaqués ce matin dans une des zones les plus inflammables du monde. Des explosions dans deux navires en mer d'Oman. 44 marins débarqués en Iran, tout près, la 5e flotte américaine alertée. Les armateurs parlent d'attaques, voire de tirs de torpilles. Les circonstances restent très floues dans cette région par où transite un tiers du pétrole mondial. Nous ferons le point dans un instant avec notre correspondant dans la région. En France, l'hommage d'Emmanuel Macron aux sauveteurs en mer, morts vendredi dernier au Sable d'Olonne.
La nation pleure trois de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres.
Légion d'honneur à titre posthume pour les trois et pour les quatre autres marins qui étaient avec eux en baie des Sables vendredi. Une grande première dans l'église, des enfants du silence reçu par les évêques cet après-midi à Paris. Ces enfants de prêtres ou de religieux, ces enfants du tabou, comme Léa.
Ma grand-mère, elle me prenait à part, elle me disait « Ah, tu sais, tu n'aurais pas dû naître, tu es une fille du diable. » Enfin, elle me dit ça, j'avais 10 ans, c'était pas spécialement sympa.
Témoignage tout à l'heure au micro de Julie Pietri. Un échec pour Marine Le Pen en Europe. Il n'y aura pas de grand groupe populiste extrémiste. Le projet de loi autorisant la PMA pour les couples de femmes sera bien présenté en juillet en Conseil des ministres. Au-delà de la décision de principe, beaucoup de questions liées à cette réforme. La filiation, l'accès aux origines, nous verrons comment ça se passe ailleurs en Europe avec Delphine Simon. Dans ce journal encore, un candidat au bac âgé de 11 ans, c'est une des particularités de l'épreuve. 4 jours après l'accident de Lorient, le chauffard est désormais seul en fuite, la passagère s'est rendue à la police. Voulez-vous un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris? La récolte des pétitions a commencé avec un gros bug. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Une pause ensoleillée cet après-midi.
Oui, le soleil va effectivement briller sans partage dans le sud-ouest, le sud et l'est du pays. En revanche, vous resterez sous les nuages dans les autres régions avec encore un régime d'averse. Et puis côté température, prévoyez 16 à 20 degrés dans le nord et le nord-ouest, 21 à 27 ailleurs et jusqu'à 30 degrés à Ajaccio.
A tout à l'heure pour les détails, Jean-Pierre, nous parlerons également dans ce journal de football et de la vente aux enchères d'un diplodocus cet après-midi à Paris. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Que se passe-t-il dans une des zones les plus périlleuses de la planète, en mer d'Oman, entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran? Une bonne partie des tensions diplomatiques et des conflits les plus chauds sont à portée de missiles. L'Iran, la Syrie, le Yémen, sans compter que nous sommes sur une route majeure du pétrole. C'est dans cet endroit que des explosions se sont produites à bord de deux pétroliers. Attaque ou accident? Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Bruno.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Que sait-on de ce qui s'est passé ce matin, Aurélien?
Alors, trois explosions d'abord sur le pétrolier norvégien Frontalter, confirmé par les autorités maritimes norvégiennes qui précisent que le tanker de 110 000 tonnes est toujours en feu. Son armateur taïwanais évoque un tir de torpille, mais les autorités norvégiennes ne confirment pas. Et puis le second pétrolier touché est le Kokuka Courageous. Selon son armateur japonais, l'équipage aurait effectué des manœuvres pour échapper à une première attaque avant d'être finalement de nouveau attaqué et touché, mais sans être endommagé. Les circonstances de ces incidents restent floues. L'agence de presse iranienne parle ce matin d'accident. Elle indique que les équipages des deux navires ont été secourus. 44 marins désormais sains et saufs dans les ports de la République islamique. Et de son côté, la 5e flotte américaine basée à Bahreïn parle d'appels de détresse reçus ce matin de deux navires attaqués. Des bâtiments de la marine américaine sont sur zone selon un communiqué.
Et tout cela intervient dans un climat inflammable, Aurélien.
Oui, et dans une zone où ce sont qui est à la sortie du détroit d'Ormuz, vous le disiez, où transite à peu près un tiers du pétrole mondial, une zone stratégique où 4 navires étrangers ont déjà été endommagés il y a un mois. Des sabotages perpétrés par l'Iran ont depuis accusé les États-Unis et l'Arabie Saoudite. L'Iran a démenti ce matin. Téhéran exprime, je cite, son inquiétude après ces nouveaux incidents suspects, des incidents qui interviennent alors que Washington met une pression maximum sur le régime iranien, pression économique avec toujours plus de sanctions et pression militaire avec un renforcement constant de la présence américaine dans le Golfe Persique.
Merci Aurélien pour ces précisions. On l'a compris, beaucoup de flou encore à propos de ce qui s'est passé ce matin. Est-ce qu'un des bateaux a pu être touché par une torpille? Est-ce que c'est possible? L'amiral Alain Coldefy en doute, amiral à la retraite, expert en sécurité maritime, joint par Bertrand Gadichet.
Quand on veut couler un bateau, il faut l'attaquer sous la flottaison. Cette menace, elle est très importante parce qu'on peut faire couler un bateau en quelques secondes ou en quelques minutes, quels que soient les dispositifs, j'allais dire, de double coque contre les collisions, etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver sous l'eau? On peut trouver des mines, champs de mines, mines dérivantes ou des torpilles. Torpilles, il faut un lanceur. Je n'y crois pas trop, car la flotte française et surtout la flotte américaine sont présentes. Il faut un sous-marin, ça se détecte. Ou alors il faut un avion ou un hélicoptère largueur de torpille, ça se détecte. Ça suppose un dispositif militaire, j'allais dire, accompli. La mine, c'est vraiment l'engin de terreur assez imparable.
Et cette dernière minute, l'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie ou représentante de la diplomatie, appelle à éviter les provocations dans cette région. De la mer d'Oman à l'océan Atlantique, le contexte est évidemment radicalement différent. Mais c'est bien d'un naufrage qu'il était question ce matin dans les voix, dans les sons, dans les musiques, au Sable d'Olonne. Le naufrage de vendredi dernier du navire de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Trois marins sont restés, trois marins en sont morts, quatre autres sont rescapés. Et le président de la République, Emmanuel Macron, était au Sable d'Olonne pour leur rendre hommage et leur remettre la Légion d'honneur ce matin, Cyril Graziani.
Oui, et le son des vagues résonne en contrebas de ce fort Saint-Nicolas, partout du orange couleur de la SNSM. Le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, a d'abord pris la parole et lu un poème choisi par les familles des sauveteurs.
SNSM, quatre lettres que l'on aime, sauveteurs de mer, ils sont volontaires. Marins de la SNSM, sachez que vous êtes l'emblème des nouveaux héros, solides comme les coraux.
Les cercueils des sauveteurs qui ont péri en mer sont arrivés dans le fort. Trois membres de leur famille les accompagnent, chacun une photo du défunt. Et cette demi-coque représentant le canot qui a fait naufrage, Emmanuel Macron a d'abord rendu hommage aux trois hommes et remis la Légion d'honneur.
Monsieur Dimitri Moulic, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Mais le chef de l'État a également décidé d'honorer les quatre rescapés.
Vous qui avez côtoyé la mort, mais en avez été miraculeusement épargné, alors que vos camarades, pour reprendre vos mots, n'ont pas eu la même étoile. J'ai décidé de vous nommer aussi chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Car un équipage jamais ne se divise et toujours fait un.
L'unité. L'unité de la nation, c'est aussi le message qu'Emmanuel Macron est venu ici transmettre. Les cornes de brume ont retenti lorsqu'a résonné l'Amazing Grace, nourri d'applaudissements d'une foule venue encore très nombreuse honorer ses héros.
Cyril Graziani, et avec quelques notes de musique, Cyril Graziani en direct des Sables d'Olonne avec Stéphane Beaufils. Combien de temps un jeune homme de 20 ans, sans gros moyens, qui doit éviter d'utiliser le portable ou de retirer de l'argent pour ne pas se faire repérer, combien de temps peut-il tenir en cavale? C'est la question à propos du chauffard qui a renversé deux garçons, l'un est mort dimanche à Lorient, l'autre est entre la vie et la mort. Élément supplémentaire, ce jeune homme est désormais seul en cavale. La passagère, son ex-petite amie, s'est rendue hier près de Lorient.
Elle s'est présentée d'elle-même hier soir devant une maison de Caudan près de Lorient, une maison a priori choisie totalement au hasard. Et elle est arrivée en disant qu'elle était la fille de l'appel à témoins. Selon les premiers éléments, son objectif clairement, c'était de se rendre à la police. D'ailleurs, les gens qui habitent là ont tout de suite prévenu les gendarmes. Une patrouille est arrivée et a prévenu les fonctionnaires en charge de l'enquête à Lorient. Depuis 23h30, donc, cette jeune de 21 ans est placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Elle est soupçonnée d'être la passagère du chauffard qui a pris la fuite après avoir renversé deux enfants dimanche. Lui est toujours recherché. Hier, lors des obsèques du garçon de 10 ans qui a été tué, les proches de la famille les imploraient de se rendre.
Merci pour ces précisions. Selon nos informations, la jeune femme ne coopère pas avec les enquêteurs. Les obsèques du garçon mort dans l'accident ont eu lieu hier. Plus de 500 personnes y ont assisté et une marche blanche est organisée en ce début d'après-midi à Lorient. Le répugnant s'est ajouté à l'ignoble hier dans un centre des Restos du Cœur de Toulon, celui de Florane. Non seulement des voleurs ont emporté près d'une tonne de marchandises, mais en plus, ils ont dégradé le local, des œufs au plafond et de l'huile sur le sol. C'est du jamais vu, et décidément, il y a dans l'église des tabous, des murs de silence qui se lézardent. des évêques reçoivent très officiellement cet après-midi à Paris trois enfants de prêtres ou de religieuses. Trois enfants devenus adultes, mais qui ont évidemment souffert toute leur vie. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Spécialiste des questions religieuses à France Inter. Nous avons entendu des témoignages dès ce matin à votre micro, Julie. D'autres mots dans ce journal et la parole de l'Église. D'abord, Léa. Fille de prêtre.
C'est une histoire d'amour interdite entre un homme en soutane et une femme prof dans un lycée catholique. Le prêtre, qui veut bien faire les choses, quitte les ordres à la fin des années 60. Cet homme était le père de Léa.
Vous sortez, vous êtes vraiment démunis. Vous avez deux, trois pulls, une paire de chaussures, une soutane, pas d'argent. C'est-à-dire, vous avez donné votre corps, votre âme à Dieu. Vous avez rien.
Comme souvent, l'ancien prêtre est incité à déménager dans un village du sud de la France. La discrétion avant tout, ne pas dire surtout qu'il a renoncé au célibat et à la chasteté. S'en suivent des années d'humiliation, de lettres de menaces quand le secret est ébruité, de rejet familial aussi, et le souvenir pour Léa d'une enfance angoissée.
Par exemple, on a pris un chien de garde, très doux en fait, mais féroce en apparence, pour que physiquement, il n'y ait pas des gens qui viennent nous embêter. Il y avait comme un couvercle au-dessus de notre tête qui pesait. Ma grand-mère, elle me prenait à part, elle me disait « Ah, tu sais, tu n'aurais pas dû naître, tu es une fille du déshonneur, tu es une fille du diable. » Ah, j'étais là, enfin, elle me dit ça, j'avais 10 ans. C'était pas spécialement sympa.
Et Julie, l'association Les Enfants du Silence, dont Léa est membre, réclame reconnaissance.
Et accompagnement aussi, des demandes que l'Église de France est prête à entendre cet après-midi, assure Vincent Némon, porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France.
Ce dialogue est déjà une première marche dans une reconnaissance. Si un prêtre aujourd'hui doit être renvoyé de l'état clérical pour assumer sa paternité et sa famille, il faudra que l'Église envisage la manière de l'aider dans cette nouvelle vocation.
Car depuis 2017, le message du Vatican est clair. Si un prêtre devient père, il doit s'occuper de son enfant et quitter les ordres, ce qui n'a pas toujours été le cas, bien sûr, par le passé.
Et la rencontre entre les trois enfants du silence et les représentants de l'Église aura lieu à 15h dans les locaux de la Conférence des évêques de France à Paris. Gilets jaunes, élections européennes. Comment se recompose le paysage politique après des mois de campagne et de vote? Il y a trois jalons importants ce matin. Le premier, nous le posons en allant à Bruxelles. Contrairement à ce qui a été régulièrement évoqué pendant la campagne des européennes, il n'y aura pas de grands groupes populistes extrémistes au Parlement européen. Le Rassemblement national a même fait un certain vide autour de lui. Maxence Lambrecq, Marine Le Pen a négocié jusqu'au bout, mais ni les Polonais, ni les Hongrois, ni les Espagnols, ni les Anglais ne veulent siéger avec ses troupes.
En effet, résultat, ce sont les écologistes qui devancent les amis de Marine Le Pen. Ils promettaient pourtant de former le troisième, peut-être le deuxième groupe du Parlement. Finalement, ils occupent aujourd'hui la cinquième place et demain, après le Brexit, la quatrième. Les Polonais du PiS ont gardé leur groupe. Les Espagnols de Vox ne voulaient pas des régionalistes flamands avec eux. Les Hongrois de Viktor Orban sont plus forts au PPE, le premier groupe ici. Ce n'est pas une défaite, c'est un point de départ, relativise le président de ce groupe, l'Italien Marco Zani, et Marine Le Pen est sur la même ligne.
On ne doit pas s'en tenir à des logiques comptables de groupes. Il y a des alliances, mais il y a aussi, et elles vont être essentielles, des convergences.
Convergence entre tous les souverainistes, ils seront un peu moins de 200 ici, autrement dit un petit tiers, et ça devrait en effet compliquer la vie des partisans de l'UE, même si entre eux, on ne compte plus les différences entre libéraux et étatistes, entre pro et anti-russes, et cela agace.
On joue là à un jeu bien connu des enfants de 4 ans, hein, c'est le jeu des 7 différences. Nous ne sommes pas des enfants et nous savons pertinemment où nous voulons aller.
Ils partent en tout cas sous une nouvelle bannière. Ce groupe de 73 élus a maintenant pour nom Identité et démocratie. Adieu l'Europe des nations et des libertés. Et ainsi, l'Europe disparaît du titre au profit de l'identité. Ce n'est pas un hasard. Bruxelles, Maxence Lambrecq, France Inter.
Aux élections européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 23% des suffrages. En France, les Républicains, quatrième seulement, 8,5%. Depuis ce bide historique, la droite se délite et le gouvernement lui tendait un piège supplémentaire ce matin au Sénat. Le Premier ministre y prononçait à nouveau son discours de politique générale et, fait inédit, Édouard Philippe demandait un vote de confiance aux sénateurs. Aucune importance formelle, le Sénat ne peut pas renverser le gouvernement, non. L'un des objectifs principaux d'Édouard Philippe, c'était d'enfoncer un coin supplémentaire à droite entre ceux qui seraient tentés de s'abstenir pour afficher un soutien discret à son action et ceux qui veulent voter contre lui. Eh bien, l'unité de la droite tient à peu près, Elodie Forêt, les sénateurs se sont majoritairement abstenus.
Oui, vous avez raison. Ce matin, l'important, ce n'était pas les annonces. Édouard Philippe faisant principalement un résumé succinct de son discours d'hier. Non, l'essentiel, c'était de mieux cerner l'état d'esprit de cette majorité de droite et du centre au lendemain de la tempête européenne. Le Premier ministre qui leur a fait un nouvel appel du pied, priant pour la fin des clivages.
L'époque exige une forme de dépassement. En vous demandant d'approuver cette déclaration de politique générale, je vous demande de dépasser des clivages et des différences que je respecte, mais qui ne me semblent plus aujourd'hui les plus importants.
Alors face à lui, une droite qui a longuement hésité entre son rôle d'opposant et la volonté de préserver une cohérence dans la majorité sénatoriale. Les LR se sont, vous l'avez dit, finalement majoritairement abstenus, contrairement à leurs collègues de l'Assemblée. La sénatrice Dominique Estrosi Sassone a expliqué ce choix à la tribune.
Cette abstention, c'est tout, sauf un chèque en blanc. Nous jugerons sur pièce, au cas par cas, texte par texte. Ni opposition systématique, ni adhésion automatique. Telle est notre ligne de conduite.
Seule une poignée de sénateurs LR a voté contre, comme Roger Karoutchi. Il dénonce la volonté gouvernementale d'annihiler la droite.
Moi j'aime beaucoup Édouard Philippe, mais bon, on n'est pas obligé de faire un suicide politique de toute la droite. C'est pas parce qu'on s'est planté aux européennes qu'il faut disparaître de l'échiquier et laisser se mettre en place une bipolarité dangereuse. Dangereuse pour la démocratie, pas spécialement pour moi, parce que j'en ai affaire.
Et ce matin au Sénat, seuls 71 élus ont approuvé la déclaration du Premier ministre.
Élodie Forêt en direct du Sénat avec Thibault Nassim Bell. Et nouvelle annonce du Premier ministre ce matin, un projet de loi décentralisation sera présenté dans un an environ, fin du premier semestre 2020, pour valider nouveaux transferts de compétences aux élus locaux dans les domaines du logement, des transports et de la transition écologique. Dans la série, le paysage politique se recompose, les pratiques politiques changent. Dernier jalon ce matin, là c'est dans la continuité du grand débat. Y aura-t-il un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris? La première étape a été franchie au Parlement. Maintenant, il faut recueillir près de 5 millions de signatures de citoyens. La récolte a officiellement commencé ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, donne les détails depuis le Conseil constitutionnel et ça commence par un gros bug, Laurence Perron, apparemment.
Oui, alors ce n'était pas le ministre de l'Intérieur, c'est cet après-midi qu'il recevra les parlementaires. Alors depuis ce matin, effectivement, sur les réseaux, ça n'arrête pas, des captures d'écran qui indiquent que le site ne répond pas, que le votant n'est pas inscrit sur les listes électorales. Alors aussitôt, vous l'avez vu, la twittosphère s'est emballée, coïncidence, je ne crois pas, et hop, théorie du complot, le ministère de l'Intérieur ferait tout pour décourager les militants du référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Alors au Conseil constitutionnel, on avoue un bug sur un serveur, mais c'est réparé, et les journalistes ont eu le droit ce matin à une démonstration du site qui effectivement, on doit le dire, fonctionne. Il y a 4,7 millions de signatures à recueillir d'ici le 13 mars 2020 pour que la proposition de loi soit examinée ou par le Sénat ou par l'Assemblée nationale dans les 6 mois qui suivront la récolte de ces signatures. Et c'est uniquement dans le cas où cette proposition de loi ne serait pas examinée que le président de la République serait contraint de convoquer un référendum. Alors il y a donc un site internet www.referendum.intérieur.gouv.fr. Pour déposer son soutien, il faut se munir d'une pièce d'identité, d'une carte électorale et attention, un prénom inversé, une virgule en trop et hop, on vous dit que vous n'êtes pas inscrit, donc il faut être très très précautionneux. À savoir, tous les soutiens seront visibles et publics sur le site. C'était prévu à l'article 3 de cette loi pensée par Nicolas Sarkozy en 2008. Tout n'est pas absolument parfait, concède le Conseil constitutionnel, mais c'est une première, il faut donc être indulgent. Et je crois que j'ai fait une liaison mal à propos.
Merci Laurence Perron et donc le ministre de l'Intérieur tout à l'heure qui apportera d'autres précisions. Nous allons prendre quelques minutes à présent pour nous arrêter sur cette question de la PMA, procréation médicalement assistée. Le consensus ne sera pas facile à obtenir. Ce sont les propos de la ministre de la Justice ce matin sur France Inter à propos de cette réforme, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes seules. La réforme est donc bien au programme, en Conseil des ministres en juillet, au Parlement en septembre. Déjà, un ministre du gouvernement venu de la droite, Bruno Le Maire, ne cache pas un petit malaise.
Mais je ne change pas d'avis en fonction de mon entrée dans un gouvernement. J'ai toujours eu des interrogations sur la PMA. Ces interrogations, je les garde.
Le ministre de l'économie ce matin sur France Info. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Alors comment ça se passe ailleurs en Europe? Votre chronique dans ce journal de 13h. Quel pays autorise la PMA?
Eh bien c'est un peu l'Europe à la carte. Il y a d'abord des pays comme la France qui réservent la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels stériles et stables. Cela vaut aussi dans le cas des maladies génétiques. 7 pays font partie de ce groupe, parmi lesquels l'Allemagne ou l'Italie. Deuxième cas de figure, les pays qui considèrent la PMA comme un choix choix personnel, voire comme un droit. 10 pays l'autorisent pour toutes les femmes et parmi eux nos plus proches voisins, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et les pays scandinaves.
Alors au-delà du principe, ce qui est en jeu aussi, c'est la question de la filiation quand on est né de PMA. Comment est-on reconnu, fils ou fille d'eux ? Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, ce matin sur France Inter.
C'est un sujet qui est vraiment extrêmement délicat. Il se rapporte à des notions liées à la protection de la vie privée, à des notions liées à l'accès aux origines. Comment indiquons-nous et faut-il indiquer qu'un enfant est né par procréation médicalement assistée? Au moment où nous parlons, toutes les décisions ne sont pas prises.
Question très délicate, en effet, Delphine. Comment les autres pays y ont répondu?
Alors, concernant la filiation, il ne faut pas tout mélanger. En France, seule la femme qui porte l'enfant est considérée comme sa mère. En cas d'accident de l'enfant, face à l'institution scolaire, voire en cas de succession, l'autre parent n'a aucune existence légale, sauf s'il adopte. C'est possible depuis 2013. Pourtant, certains de nos voisins admettent tout simplement qu'un enfant puisse avoir deux mère à la naissance. C'est le cas en Belgique. Si le couple de femmes est marié, la conjointe de celle qui met l'enfant au monde sera automatiquement tenue comme parent. Et si le couple n'est pas marié, mais avec le consentement de la mère biologique, sa compagne peut reconnaître l'enfant à la naissance. Il n'y a pas de différence entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. En Espagne, ce lien de filiation passe par une simple déclaration de maternité en mairie, mais ça vaut uniquement pour les couples mariés.
Autre question, l'enfant aura-t-il accès à ses origines?
On le sait, en France, le don de sperme est anonyme. Alors pour connaître l'identité du donneur aujourd'hui, il faut aller en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark ou encore en Angleterre. Un certain nombre de Français ont d'ailleurs fait ce choix, car là-bas, les enfants ont accès à leur majorité à l'identité de leur donneur. C'est un droit. En cas de refus ou de disparition du donneur, des informations d'ordre général, la couleur de ses yeux, son origine ethnique, peuvent leur être communiquées. Ces informations, elles sont conservées pendant 70 à 80 ans dans un registre à l'hôpital ou par un organisme indépendant. Dans ces pays, le statut des parents légaux est préservé et le donneur n'a aucune obligation vis-à-vis des enfants. On ne confond pas filiation et origine. Le Conseil de l'Europe souhaite d'ailleurs clarifier ce débat. En avril, cet organisme qui représente 47 États européens a même voté une recommandation dans laquelle il appelle les États membres à repenser toute la logique de l'anonymat.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? Votre chronique, Delphine Simon, est à retrouver sur franceinter.fr et puis précision de la ministre de la Justice ce matin sur Inter, ça aussi c'est à réécouter sur Internet ou en podcast. La GPA, gestation pour autrui, les mères porteuses, ne sera pas abordée dans le projet de loi bioéthique, pas même la question de la filiation des enfants nés à l'étranger d'une GPA. Comment va se dérouler le bac 2019? Coup d'envoi lundi prochain, 740 000 candidats. Le ministère donnait des précisions ce matin. Le contexte 2019, c'est une contestation de la loi Blanquer, des menaces de grève de surveillants et du coup, le ministère qui prend ses précautions. Sonia Princey.
743 594 candidats très exactement passent le bac. C'est un peu moins que l'an dernier, tout simplement pour des raisons démographiques. Et 536 000 élèves de première sont inscrits pour les épreuves de français. Le plus jeune candidat a 11 ans, c'est un des records. Il est de l'Académie de Versailles et le plus âgé a 77 ans dans l'Académie de Dijon. Pour cette session 2019, une inquiétude au tableau avec la grève de la surveillance prévue lundi. Le ministère se dit vigilant mais confiant face au préavis de grève déposé par certains syndicats. Des mesures ont été prises par anticipation, comme l'explique Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire.
Nous sommes vigilants pour que les épreuves se passent bien et une des mesures que nous avons prises et que les académies ont prises et que les établissements ont prises, c'est de convoquer davantage de surveillants, notamment pour la journée de lundi, la première journée des épreuves. Tout dépend des situations locales, mais je sais qu'une académie du Sud-Ouest, par exemple, a pu, pour le lundi matin, convoquer à peu près un tiers de surveillants en plus.
Le ministère tient à rassurer les élèves, les parents et en appelle à la responsabilité des professeurs pour que les épreuves se déroulent normalement. Autre particularité de ce bac 2019, la dématérialisation des copies pour les épreuves de sciences dans 15 académies et de français dans l'académie de Nancy-Metz. Les copies seront scannées et corrigées sur ordinateur, ce qui évite les risques de perte. Au ministère de l'Éducation nationale, Sonia Princey, France Inter.
Et ce qui est compliqué, c'est de passer le bac alors que se déroule une Coupe du Monde de football à la télévision. Et à nouveau un très beau score d'audience pour l'équipe de France féminine de foot. Hier soir, plus de 10 millions de téléspectateurs devant TF1 et Canal+. On peut aussi écouter la radio. Et une victoire 2-1 face à de très coriaces norvégiennes. Ça y est, les Bleus qui jouent à la maison sont favorites dans la compétition. Oh là, doucement bijou, répond Corinne Diacre qui entraîne les Bleus.
On est toujours outsider. La difficulté que l'on a rencontrée ce soir, ça se reproduira. Une Coupe du Monde, c'est quelque chose de compliqué. Ce sont des matchs... comme on les a vécus ce soir, difficiles, âpres. Ça se joue sur des détails. Voilà, c'est pas parce qu'on a deux matchs de victoire qu'on devient favori de la compétition, absolument pas.
Bonjour Guillaume Batin. Corinne Diacre met un petit peu d'eau froide sur les esprits qui s'échaufferaient. On l'a également entendu l'autre jour rabrouer les journalistes, qui la dépeignent en mère tape dure. C'est une des personnalités qui s'impose en ce début de Coupe du Monde.
Oui, elle a l'image d'une femme austère avec son regard bleu pétard, translucide. Ses entraînements sont exigeants, militaires. Elle commence parfois au petit jour et ses joueuses n'ont pas intérêt à déraper. Sinon, eh bien, l'attaquante Valérie Gauvin en retard deux fois à l'entraînement, l'a payée au match d'ouverture en débutant sur le banc. Corinne Diacre est une vraie passionnée de football. Au lieu d'aller chez la nounou, le mercredi, petite, elle préférait accompagner son père qui jouait à Wascal dans le Nord. En bleu, très tôt, dès l'âge de 18 ans, elle sera capitaine et portera le maillot au coq à 121 reprises, record à battre, fidèle au bleu et à son club de toujours. À Angoulême Soyaux-Charente, 19 ans comme joueuse, malgré des propositions alléchantes de clubs américains et 6 autres comme entraîneur. Corinne Diacre est aussi une pionnière. C'est la première à avoir entraîné une équipe masculine professionnelle à Clermont Foot en 2014. Première femme à décrocher le diplôme d'entraîneur de Ligue 1 et Ligue 2 la même année. Corinne Diacre est une femme de caractère. Aucune question de journaliste ne la déstabilise. Elle brouille les pistes sur sa composition d'équipe. Elle joue aussi de l'ironie, de l'humour quand les questions l'agacent, notamment quand on la fait passer pour une femme dure et sévère.
Merci Guillaume Batin pour ce portrait. Prochain match des Bleus lundi face au Nigeria. Aujourd'hui Australie, Brésil et Afrique du Sud, Chine. Mais qui peut bien vouloir acheter un diplodocus, un squelette quasiment complet de dinosaures, est vendu aux enchères cet après-midi à l'Hôtel Continental dans le quartier de l'Opéra à Paris. Il a même encore des morceaux de peau sur certains os. 6 mètres de haut, c'est un cousin du diplodocus pour être précis. Pour l'instant, il est sous la verrière de l'hôtel, dressé sur ses pattes arrière. Il devrait être cédé pour largement plus d'un million d'euros. Et la vente va très certainement se dérouler entre acteurs privé. Mais qui peut bien vouloir d'un dinosaure? Réponse de l'expert en histoire naturelle en charge de cette vente, Eric Micheler.
Il appartient à un collectionneur, un privé européen. Il a été vendu par le groupement de paléontologues, il l'a trouvé. Donc s'il est vendu, ça peut financer d'autres fouilles. Après, alors les acheteurs, au niveau des musées, ils ont des difficultés financières. Donc il faut qu'il y ait des mécènes. Ça peut être des grands groupes du CAC 40, des grands patrons susceptibles d'acquérir pour leur société, acquérir pour un musée. Cet animal-là, qui est devant moi, cet animal disparu, c'est un fantastique ambassadeur pour une société. C'est pas le premier dinosaure que je vends. On en est à largement à plus d'une dizaine. Hein. Ils ont tous fini dans des musées. Ils sont prêtés. C'est prestigieux aussi pour l'entreprise. Il faut avoir l'idée.
Un propos recueilli par Rémi Brancato. La vente, c'est donc à 15h, Hôtel Continental, quartier de l'Opéra.